Bonsoir à tous. Face aux perturbations à la SNCF en pleine période de départ en vacances, Édouard Philippe dénonce une grève sauvage et son impact inacceptable. Les syndicats invoquent un droit de retrait tout à fait légal. Dossier complet dans ce journal avec Maxime Deps. Le Brexit, nouveau coup de théâtre à Westminster. Les députés britanniques reportent leur vote sur l'accord négocié par Boris Johnson, relançant l'incertitude à 12 jours seulement de la date prévue du divorce. Matteo Salvini rassemble ses partisans à Rome. Il parle d'acte fondateur de sa reconquête du pouvoir. Le sort des djihadistes français détenus en Syrie par les Kurdes, le coordonnateur du pôle antiterroriste du tribunal de Paris, estime que ne pas rapatrier ces djihadistes fait courir un risque de sécurité en France. Comme chaque samedi, la vie connectée avec Christine Siméon. Ce soir, un festival de la création vidéo en ce moment à Paris, au Forum des Images.
France Inter.
Le trafic ferroviaire dans toute la France était toujours très perturbé aujourd'hui par des contrôleurs et des conducteurs de train. Ils ont décidé d'exercer un droit de retrait après un accident de TER sur un passage à niveau qui a fait 11 blessés mercredi, dont un conducteur. Direction et syndicats ont négocié la nuit dernière sans trouver d'accord sur la présence de contrôleurs dans tous les TER. À la mi-journée, Édouard Philippe s'est rendu à la gare de l'Est à Paris. Le Premier ministre a sévèrement condamné ces arrêts de travail au premier jour des vacances scolaire de la Toussaint. Il parle de grève sauvage. Maxime Deps, bonsoir.
Bonsoir.
Les syndicats de la SNCF et le Premier ministre n'ont pas la même interprétation de ce fameux droit de retrait.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Les syndicats de cheminots littéralement choqués de cette prise de parole d'un Premier ministre qui n'avait pas à prendre position pour Didier Matisse de l'UNSA Ferroviaire.
Dans une situation qui est déjà plus que tendue, s'il voulait ajouter de l'huile sur le feu, il n'aurait pas fait mieux. C'est pas à lui à commenter et à dire si les cheminots sont dans leurs droits. Ça reste du domaine du président de la SNCF et non pas du Premier ministre.
Des syndicats sûrs de leur fait, le droit de retrait qu'ils exerçaient légitime. 11 blessés dans un TER dont le conducteur seul à bord qui a dû tout gérer, ce n'est pas un détail. Avis partagé ce soir, au moins pour moitié, par Daniel Saada, avocat en droit du travail que nous avons contacté.
Dans un cas comme celui-ci, il y a manifestement des défaillances multiples de la SNCF, s'agissant à la fois de l'accompagnement des trains, des suites à donner à un incident. Le droit de retrait peut, dans un cas comme celui-ci, effectivement avoir tout son sens. Mais ce n'est pas une grève sauvage.
Ce spécialiste du droit, pour qui les déclarations faites à l'emporte-pièce ne valent pas grand-chose, sachant que la SNCF dit étudier la voie judiciaire, il reviendra sans doute à la justice de trancher bientôt pour savoir si abus il y a eu.
Maxime Deps est sur ce dossier droit de retrait que dit précisément le droit. Dossier complet sur franceinter.fr. Conséquence de ces arrêts de travail à la SNCF, des voyageurs très souvent perdus au milieu des annulations de train. Exemple à Toulouse, à la gare Matabio, reportage de Suzanne Chodjaï.
La quasi-totalité des TER est supprimée. Jean devait justement prendre un train régional.
19h d'ici à Figeac.
Et alors il part ou pas?
On ne sait pas encore. Jusqu'ici, il n'y a pas de train. Je pense que je vais à l'hôtel pour réserver. S'il y a un autobus un peu plus tard, peut-être.
Pour les TGV aussi, c'est compliqué. Françoise profite du soleil sur le parvis de la gare après un long trajet.
Je devais prendre le train ce matin à 6h30 d'Austerlitz à Paris. Uniquement trois trains étaient affichés. On nous a dit que c'est les trois trains de la journée, il n'y a pas de train pour Toulouse. Je suis allée à la gare Montparnasse et j'ai tenté ma chance. Là, il y avait des TGV, donc je suis montée dans un TGV.
Finalement, Françoise s'estime heureuse. Elle, au moins, est arrivée à bon port.
Mais il y avait pas mal de parents qui venaient avec leurs enfants et qui devaient être accompagnés par le service d'accompagnement de la SNCF. Et on leur a dit, revenez mercredi. Le prochain train, c'est mercredi.
Et demain, alors, y aura-t-il des trains à Toulouse? Vanda doit prendre un TER.
C'est à 9h30. On ne sait pas si le train va marcher ou pas.
Vanda ne le saura que demain matin. Et pour remplacer les trains supprimés, certains trajets régionaux sont assurés par des bus.
Voilà, des voyageurs un peu perdus à la gare Matabio de Toulouse avec Suzanne Chodjaï. Le point maintenant sur la circulation des trains ce soir dans toute la France. Au PC Mobilité, on retrouve Emeline Ferry. Bonsoir Emeline.
Bonsoir.
Situation très difficile sur les réseaux TER, Transilien et Intercité.
Oui, et une situation toujours très contrastée en fonction des régions. Le trafic des TER est encore très perturbé dans une grande partie du pays. En Nouvelle-Aquitaine, seulement 20% des trains régionaux sont sur les rails. Il y a encore des trains retardés retardées ou supprimées en gare de Toulouse, de Marseille, Strasbourg ou encore Lyon. Les grandes lignes sont également touchées, même si la grande majorité des TGV circulent normalement. Il n'y a pas eu de train Ouigo pendant une grosse partie de la journée, mais quelques-uns ont pris le départ dans l'après-midi au compte-gouttes. Il n'y en a pas eu beaucoup. En Ile-de-France, c'est toujours très très compliqué pour les usagers du RER. Sur le RER B, par exemple, il n'y a aucun train entre Paris Nord et Mitry-Clay et seulement un aller-retour par heure pour rejoindre l'aéroport Charles de Gaulle. Les autres lignes de RER sont aussi fortement touchées, tout comme la plupart des Transiliens. Sur la ligne R, quasiment aucun train ne circule. Alors on n'a pas encore beaucoup d'informations pour la journée de demain, mais le trafic devrait être encore très perturbé.
Au PC Mobilité, Emeline Ferry. Direction Londres maintenant, à la Chambre des communes. On attendait aujourd'hui un vote qualifié d'historique sur l'accord de Brexit négocié par Boris Johnson cette semaine avec l'Union européenne. Eh bien, les députés britanniques ont décidé de reporter ce vote grâce à une subtilité juridique. Antoine Gignoux est notre correspondant permanent à Londres. Il est en ligne avec nous. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Antoine, c'est clairement un échec pour le Premier ministre Boris Johnson.
C'est sûr, et c'est une bouffée d'air frais pour tous ceux qui s'opposent à la sortie de l'Union européenne. La motion adoptée ce soir oblige les députés à examiner un par un les différents points de l'accord négocié avec Bruxelles. Et face à l'ampleur de la tâche, oblige aussi, en théorie, Boris Johnson à demander ce soir un report du Brexit. Mais le Premier ministre refuse pour l'instant de s'avouer vaincu. Écoutez.
Le gouvernement va faire passer les lois nécessaires pour quitter l'Union européenne avec notre accord le 31 octobre. Et j'espère que l'Union européenne, collègues et amis, ne seront pas aussi tentés que les membres de l'opposition par l'idée d'un délai. Ils ne le seront pas. Et que les députés vont changer d'avis et soutenir cet accord à une large majorité.
En réaction des cris, des sifflements dans l'opposition, Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes, prend la parole et répond fermement.
Le Premier ministre doit maintenant se plier à la loi. Il ne peut plus brandir la menace d'une sortie sans accord de l'Union européenne pour faire chanter les parlementaires et les obliger à soutenir son accord au rabais. Le Parti travailliste ne vendra pas au rabais les gens dans les communautés qu'il représente. Nous ne vendrons pas leur futur au rabais. Et nous pensons que c'est le peuple qui doit avoir le dernier mot sur la question du Brexit.
Car cette idée d'un nouveau référendum populaire prend de l'ampleur, soutenue cet après-midi par plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Londres.
Antoine Gignoux, en direct à Londres. Alors après ce vote des députés britanniques reportant la décision sur l'accord entre Londres et Bruxelles, l'Élysée estime qu'un délai supplémentaire n'est dans l'intérêt de personne. Réaction aussi de la Commission européenne à Bruxelles. Angélique Bouin, vous êtes notre correspondante dans la capitale belge. Bonsoir Angélique.
Bonsoir.
La Commission demande à Londres de l'informer sur les prochaines étapes de cette interminable procédure de divorce.
Et de le faire le plus vite possible, dit sa porte-parole. Le temps presse, en effet, et pour les 27 États européens, la balle reste ce soir dans le camp de Boris Johnson, selon qu'il demande ou non ce nouveau report. Leurs ambassadeurs en poste ici à Bruxelles vont donc une nouvelle fois sacrifier leur repos dominical, ils ont l'habitude. Ils se retrouveront demain à 9h30. Que peut-il se passer? Eh bien, si d'ici là, ils ont reçu formellement une demande d'extension, ils en débattront. Et il y aura sans doute un nouveau sommet européen d'ici le 31 octobre pour l'accorder ou non. La France a réitéré ses réserves. Vous l'avez dit, pour le président Macron, ces interminables négociations autour du Brexit polluent la bonne marche de l'Europe et ralentissent les réformes qu'il appelle de ses voeux. Mais l'Élysée n'a tout de même jamais été fermée à une nouvelle extension si elle se justifiait par des élections, par exemple, ou s'il fallait à Boris Johnson un délai dit technique, un très court, pour faire valider juridiquement un accord qu'il réussirait à faire voter d'ici la fin du mois. L'Allemagne et d'autres capitales sont-elles plus publiquement favorables à l'idée de laisser du temps à Londres se dépêtrer dans ses problèmes internes pour que la séparation se passe en douceur? Personne en fait ne veut d'un no deal. Le fait que les Européens aient accepté finalement de renégocier cet accord de retrait ces dernières semaines, après avoir juré qu'ils n'en feraient rien, le démontre.
Angélique Bouin en direct à Bruxelles. En Italie, Matteo Salvini donnait rendez-vous cet après-midi à ses partisans à Rome pour un grand rassemblement contre le gouvernement. Il affirme que c'est l'acte fondateur de sa reconquête du pouvoir. Une dizaine de trains spéciaux, des centaines de bus ont acheminé de toute la péninsule vers la capitale les partisans du chef de la Ligue. C'était son premier grand meeting national depuis qu'il a provoqué en plein cœur de l'été l'éclatement de la majorité que la Ligue formait avec le mouvement 5 étoiles. Reportage à Rome de notre correspondant permanent Bruce de Galzin.
Il a commencé son show par une descente dans la foule. Matteo Salvini serre des mains, s'adonne aux selfies et embrasse même les Italiennes. Anna est certaine qu'il l'a reconnue.
Je l'ai embrassée car il me connaît, je suis à la Ligue depuis 17 ans lorsqu'elle n'était qu'à 3%. Salvini est resté comme avant, ses principes n'ont pas changé.
C'est bien à son peuple que Matteo Salvini veut rendre le pouvoir. Le peuple de droite, presque uni, avec Silvio Berlusconi, pas vraiment applaudi, et Giorgia Meloni du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia qui a enflammé la foule.
Nous défendrons nos symboles, nos églises, nous défendrons notre identité, Dieu, la patrie et la famille. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe.
Puis Matteo Salvini est enfin arrivé sous les cris de ses partisans avec la volonté de gouverner.
Aujourd'hui, vous avez vu sur cette scène le bon gouvernement de la Ligue et de la droite. 10 régions, des centaines de communes. Et là où il y a un maire de la Ligue, il n'y a plus de clandestins.
Clandestini non ne arrivano più.
La place Saint-Jean de la Transe est vidée dans le calme. En fin d'après-midi, la Ligue se félicitait d'avoir réuni 200 000 personnes. À Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Dans l'est de la Syrie, le chef des forces démocratiques syriennes, dominé par les combattants kurdes, annonce la reprise des opérations contre le groupe terroriste État islamique. De son côté, le président turc Recep Erdogan menace, je le cite, d'écraser les têtes des combattants kurdes dans le nord-est de la Syrie s'il ne s'en retire pas dans un délai expirant mardi prochain. Et sur le terrain, toujours des questions sur le sort des djihadistes, notamment français, détenus par les Kurdes. La France voudrait les faire juger en Irak, mais sur ce point, Sophie Parmentier, le coordonnateur du pôle antiterroriste au tribunal de Paris, le juge David Depasse, exprime aujourd'hui un désaccord sur le fait que le gouvernement français ne veut pas les rapatrier ici en France.
Jamais ce juge antiterroriste ne s'était exprimé publiquement, préférant travailler dans l'ombre de son bureau où il instruit des enquêtes sur des dizaines d'hommes et de femmes partis rejoindre Daesh et pour certains revenus en France. Ce juge, David Depasse, a de l'expérience, du recul. Il est coordonnateur du pôle antiterroriste, mais c'est en son nom propre qu'il prend la parole aujourd'hui de façon inédite. Parce qu'il estime que l'instabilité géopolitique est devenue telle au Kurdistan syrien qu'il faut rapatrier les djihadistes français pour la sécurité de la France. Car le magistrat redoute que les évasions se multiplient, comme cela a été le cas ces derniers jours dans le camp de Aïn Issa. Des Françaises qui ont pris la fuite ont été aussitôt récupérées par le groupe État islamique. Le risque, prévient le magistrat, c'est une dispersion générale et que tous les évadés réussissent à revenir en Europe de manière incontrôlée pour nous frapper. Et puis il y a, dit-il, un risque de reconstitution de groupes de combattants aguerris. Si on ne rapatrie pas les djihadistes qu'on a encore à portée de main pour les emprisonner et les juger en France, on risque de repartir sur un cycle infernal. Je me sentirais responsable de ne pas l'avoir dit, conclut le juge David Depasse.
Sophie Parmentier sur le sort de ces djihadistes français. En bref, à l'étranger, le gouvernement catalan réclame à Madrid des négociations sans condition après 5 jours de violence pour résoudre le conflit dans la région aggravé par la condamnation de dirigeants indépendantistes. Au Liban, des milliers de personnes rassemblées aujourd'hui pour une 3e journée de manifestation contre l'incapacité de la classe politique accusée de corruption, incapacité à résoudre la crise économique au Liban, un mouvement inédit depuis des années qui paralyse complètement le pays.
Le 18-20 sur France Inter.
Les sports et le football, la Ligue 1, Lyon rencontre en ce moment Dijon, le score 0-0. Lyon avec son nouvel entraîneur, Rudy Garcia, très mal accueilli sur les réseaux sociaux par les supporters lyonnais. Rudy Garcia, ancien entraîneur de Marseille ces 4 dernières années, est responsable de nombreux propos peu sympathiques pour Lyon. Christophe Vincent, vous êtes dans les tribunes du Parc OL à Lyon. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Pierre.
Quel accueil pour Rudy Garcia, il a une lourde tâche, hein. L'Olympique lyonnais reste sur une série de 7 matchs sans gagner en championnat.
Exactement, et c'est un accueil glacial que les deux copes de supporters ont réservé à Rudy Garcia. Premier signe de défiance, les sifflets avant le coup d'envoi et l'annonce de son nom lors de la composition des équipes. Ensuite, le virage nord, le fief des Badgones, ses supporters purs et durs, a mis la deuxième couche dès l'entame en déployant une immense banderole tout aussi amicale. Garcia, notre patience sera égale au respect que tu as montré au club. Nul référence, vous le disiez, aux allégations d'un arbitrage favorable à l'OL quand il entraînait l'OM. comme accueil chaleureux, en tout cas, on fait mieux. Mais il en faut plus pour ébranler un entraîneur clivant qui semble parfois se nourrir des polémiques à son endroit. Et comme à son habitude, il s'est montré très impliqué au bord du terrain. Il parle en permanence aux joueurs. On le voit qu'il les encourage, il les applaudit et ça semble efficace. Sur le dernier quart d'heure, les Lyonnais se sont créés beaucoup d'occasions. Ils sont presque méconnaissables. Mais pourtant, le score reste vierge. Il reste 4 minutes à jouer et pour l'instant, c'est Dijon qui fait la belle affaire et l'OL qui continue de rester dans cette ambiance délétère de crise.
Christophe Vincent, en direct à Lyon et puis la Coupe du Monde de rugby au Japon, les quarts de finale, les matchs du jour. L'Angleterre a sèchement battu l'Australie 40-16 et retrouvera en demi-finale la Nouvelle-Zélande qui a éliminé l'Irlande 46-14. Demain matin, 9h15, heure de Paris, l'heure de vérité pour le 15 de France. Il affronte à Oïta le Pays de Galles en quart de finale. Les Gallois qui ont remporté 7 des 8 dernières confrontations face aux Bleus. On termine ce journal avec la vie connectée, comme chaque samedi, et un festival de la création vidéo en ce moment au Forum des Images à Paris. La création vidéo, ça regroupe tous ces youtubeurs qui postent sur la célèbre plateforme. Ils sont de plus en plus nombreux, créatifs et professionnels. Désormais, les chaînes de télé, le monde du cinéma s'intéresse à eux. Bonsoir Christine Siméone.
Bonsoir Pierre.
Vous avez trouvé une plateforme qui leur propose d'agréger tout leur contenu, quels que soient les sites où ils postent, et de les rémunérer.
Cette plateforme s'appelle Utip, écrivez ça U-T-I-P, et sur Utip, donc, j'ai par exemple regardé les fictions de Superflame, un comédien et imitateur, j'ai suivi les leçons d'histoire de Nota Bene, je me suis familiarisé au bricolage avec un barbu inventif, chacun m'a demandé si je voulais bien regarder une publicité pour qu'il soit rémunéré, et je l'ai fait. Et c'est bien la première fois que j'accepte d'être l'otage d'une pub. Ces publicités génèrent des revenus pour ces créateurs et Utip prélève 5% de ces sommes pour contribuer à développer son site. Alors, combien ça rapporte? Eh bien, voici la réponse d'Adrien Ménillot, cofondateur de la plateforme.
Alors ça, c'est la question qu'on me pose souvent. C'est extrêmement variable en fonction de l'utilisation du créateur, en fonction de s'il utilise juste la publicité ou s'il utilise la publicité plus le don plus le shop. Mais on a des créateurs qui, quand ils utilisent bien la plateforme, avec à peine 15 000 abonnés sur YouTube ou sur Instagram, peuvent gagner entre 1500 et 2500 euros par mois.
Mais alors Christine Siméone, cela devrait attirer du monde, non ?
Alors, tous ne gagnent pas autant, hein. Il faut être créatif et assidu pour arriver à ces résultats, mais actuellement, ils sont nombreux à frapper à la porte de Utip, 2500 par semaine, et il faut savoir que Utip a mis en place un comité de décision. On n'entre pas comme ça, monsieur.
Alors, on a fait le choix qui est un choix qui est un petit peu difficile à faire pour YouTube maintenant. Nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse dès le début, d'avoir une charte des contenus. Par exemple, on a dit, on ne veut pas de contenu qui appelle à la haine, on ne veut pas de contenu exagérément violent. On a dit un an avant YouTube que on refusait d'accueillir les chaînes dont on estime qu'elles abusent de l'image des enfants. Par exemple, une chaîne où des parents filment leurs enfants en train de faire des unboxings de jouets toute la journée. Nous, on ne voulait pas aider à financer ça.
Donc Swan et Neo, c'est pas la peine d'y penser.
C'est pas la peine d'y penser, pas chez nous. Voilà. À la fin du fin, c'est notre interprétation de ce qu'est votre contenu au regard de notre charte qui va faire foi. De toute façon, toutes les plateformes sont en train de se faire pousser vers ça, vers l'éditorialisation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut assumer qu'on... On n'est pas tous là pour tout le monde et donc on dit, bah, nous on est là pour vous et pas pour d'autres.
Alors je vous donne quelques chiffres sur Utip. Pour l'instant, la plateforme rassemble plus de 6500 créateurs de contenu et 350 000 abonnés qui suivent chacun une trentaine de youtubeurs. La conviction de Utip, c'est que ce métier est en train de s'affirmer comme tel et de se structurer et donc... Elle sera un outil qui sera utile à tous et une alternative au système hégémonique de YouTube.
La vie connectée avec Christine Siméone à réécouter sur franceinter.fr. Les couleurs du ciel.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
et Jean-Michel Gonaski de Météo France.
À dimanche, souvent sous la pluie ou les averses et parfois les orages. Bref, un temps perturbé dans l'ensemble avec tout de même un peu de soleil le long de la Manche, dans le quart sud-ouest et près des frontières de l'Est. Mais ailleurs, le parapluie sera de rigueur sous un ciel maussade du Poitou-Charentes au centre Val-de-Loire et du bassin parisien à la frontière belge. Et des pluies souvent soutenues à prévoir du relief languedocien en remontant vers l'Alsace avec de fortes précipitations, en particulier sur les Cévennes ardéchoises, placées en vigilance orange. Le vent orienté au secteur sud sera turbulent dans l'axe du Rhône, sur les Alpes et la Corse, avec des rafales à 100 km à l'heure sur les crêtes. Près de la Manche, là c'est le vent du nord qui sera sensible et frais, avec 12 à 15 degrés au nord de la Loire. Dans le sud-ouest, les valeurs vont osciller entre 17 et 19, contre 23 à 26 de Rhône-Alpes à la Méditerranée, et jusqu'à 32 sur la Corse du sud.